Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien.
Bienvenue dans l'épisode numéro 4 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Cet épisode est un hors-série enregistré dans le cadre de la journée de sensibilisation au deuil périnatal qui a lieu chaque année le 15 octobre. Il y a des personnes qui jalonnent votre vie, dont vous vous rappelez dans certaines circonstances, dans certains lieux. Pour moi, c'est le cas de Yulia, que j'ai rencontrée au conservatoire quand j'étais enfant. Elle parlait peu de son histoire, c'était une enfant discrète et surtout reconnaissante, c'est vraiment le souvenir que j'en avais. Et malgré cela, elle était lumineuse, tant et si bien qu'en passant devant chez elle il y a peu, je me suis à nouveau rappelée de cette petite fille aux boucles blondes qui venait du RSS et qui jouait si bien du violon. Quand Yulia est revenue vers moi, au hasard de la découverte de ce podcast, elle aussi s'est souvenue qu'elle me connaissait, mais elle n'arrivait pas à remettre le contexte. Pour moi, ça a été immédiat, et surtout j'ai été réellement surprise qu'elle m'ait reconnue. J'ai alors découvert la suite de son histoire. La vie qui ne l'avait déjà pas épargnée les a égratignées un peu plus, elle et son mari. J'ai été peinée de réaliser qu'elle avait vécu la pire douleur qui soit, la perte d'un enfant, et éblouie du fait qu'elle ait réussi à survivre à son fils Simon. Malgré la rudesse d'un parcours PMA, leur envie intacte d'avoir un deuxième enfant a été plus forte et leur a offert un bébé arc-en-ciel, un enfant d'après, en la personne de Joseph. Dans cet épisode, nous évoquons ensemble la rencontre de Yulia et Frédéric avec Joseph, la spécificité d'un enfant arc-en-ciel, mais aussi cette histoire qu'il porte en lui et qu'il doit apprivoiser. Nous revenons sur la polémique récente lancée par la télé et certains animateurs peu vertueux qui se sont permis de juger de la façon de vivre la douleur et la perte d'un enfant, et surtout qui ont eu l'indélicatesse de renier cette épreuve et ses enfants. Nous avons échangé aussi sur les bienfaits que l'écriture a eus sur le processus d'acceptation pour Yulia, consacré par la sortie de son livre « Avif » qui se veut compagnon des parents endeuillés, mais pas que. Et enfin, Yulia nous guide dans l'accompagnement que nous pourrions avoir vis-à-vis de proches qui subiraient ce drame. J'espère que cet épisode si particulier et si important pour moi vous sensibilisera au deuil périnatal qui touche les familles à tous les stades de la grossesse, mais aussi pendant et après la naissance. Ces familles sont hélas plus nombreuses qu'on ne le croit et taisent leur douleur tant le sujet est encore tabou. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Yulia.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement très spécial aujourd'hui puisque c'est un épisode qui ne sera donc pas habituel sur ce podcast. Aujourd'hui, on se rencontre dans le cadre de la journée de sensibilisation au deuil périnatal, donc qui est le 15 octobre. Donc, cet épisode sera diffusé le 15 octobre pour justement un petit peu médiatiser, expliquer en quoi consiste le deuil périnatal, parce que c'est encore très méconnu. Et précisément, aujourd'hui, on va parler d'enfants arc-en-ciel. Donc, c'est ce qui va faire le trait d'union entre mon podcast et ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer et m'expliquer ce qu'est un enfant arc-en-ciel ou un bébé arc-en-ciel ?
Oui, tout d'abord, merci beaucoup Constance de me donner la parole dans ton podcast. Donc, je m'appelle Julia, j'ai 38 ans, je suis maman de deux garçons, j'ai écrit un livre qui s'appelle À Vif, donc écrivaine à mes heures. Et puis, dans pas longtemps, je vais devenir boulangère d'une boulangerie bio. Donc voilà, on va dire que j'ai eu plusieurs vies.
Ça, c'est un super projet.
Voilà, et puis pour parler d'un enfant arc-en-ciel, en fait, c'est le nom qu'on donne aux enfants. À l'enfant d'après, c'est l'enfant qui vient après la perte d'un autre ou la perte d'autres. On parle d'arc-en-ciel parce que, en fait, l'arc-en-ciel vient souvent après la pluie et une grosse tempête. Et c'est vrai que la perte d'un enfant est un drame immense. Et derrière, en fait, quand le bonheur revient avec un autre enfant, en fait, voilà, on revoit la vie pleine de couleurs. Et c'est vrai que ce trait d'union entre mon histoire et ton podcast. Je suis contente que ce soit un trait d'union coloré, voilà.
Complètement, tout à fait. Est-ce que tu peux, du coup, me parler de ton enfant arc-en-ciel, de ton bébé arc-en-ciel, comment tu l'as rencontré ?
Alors, mon bébé arc-en-ciel, il s'appelle Joseph. Donc, aujourd'hui, c'est un bébé qui a 2 ans, depuis quelques jours. C'est une rencontre, en fait, qui s'est faite au moment même où je suis tombée enceinte de lui, parce qu'on a fait beaucoup d'autonomie, on l'a énormément attendu et voilà, pour moi la rencontre elle a commencé à partir du moment même où j'ai commencé à être mère dans le ventre. C'est une rencontre qui était extrêmement attendue parce qu'on était voilà, suite à un deuil périnatal, suite à un parcours PMA, suite à de longues années pour espérer avoir un enfant en vie à la maison, et c'est une rencontre qui a été absolument extraordinaire, qui a chamboulé ma vie, Enfin voilà, Joseph illumine ma vie, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Mais également une rencontre voilà, plein de surprises, parce que en fait, un enfant, ça chamboule une vie. Et entre ce qu'on attend, ce qu'on espère, en fait, on ne sait pas en fait, que derrière, voilà, c'est tout un chamboulement de vie qui est extraordinaire, bien évidemment, mais qui implique voilà, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle organisation, un nouveau rôle aussi. Où il faut des fois savoir être un peu plus strict. Mais en tout cas, c'est une rencontre qui je pense, m'a révélé en fait, dans le plus beau rôle que je puisse avoir aujourd'hui et qui me rend complète, en fin de compte, à 38 ans.
C'est vrai qu'on a l'impression, dans ce que tu nous expliques, que cette rencontre elle a été encore plus intense que celle que nous, on peut vivre, maman, sans être passée par un deuil périnatal. Est-ce que c'est toi la sensation que tu as ?
C'est vraiment la sensation que j'ai parce que c'est un bonheur qui vient après une énorme douleur en fait. Donc je crois que les sentiments sont complètement exacerbés. La phase d'attente aussi joue beaucoup. Je pense que quand on attend longtemps pour avoir un enfant, déjà quand il arrive ça devient un miracle, mais quand on a un enfant après une perte, alors là c'est le double miracle. Je pense qu'aussi les choses sont exacerbées parce qu'on a conscience de à quel point la vie peut être fragile, sensible, à quel point tout ne tient qu'à un fil et à quel point finalement cet enfant est une chance. Parce que finalement avoir un enfant, ça, c'est ce qui paraît être le plus naturel pour beaucoup de gens. Et tant mieux, parce que c'est vrai qu'ils ont eu de la chance. Mais avoir un enfant n'est pas forcément quelque chose qui est donné à tout le monde, en tout cas pas dans la facilité. Alors que ça paraît être la chose, en tout cas pour moi, la plus évidente, comme on a tous droit au bonheur, on a tous droit d'aimer et d'être aimé, on a tous le droit d'être un enfant, quel que soit son parcours, son origine, sa couleur de peau, sa taille, la forme de ses yeux, sa sexualité, peu importe. Mais voilà, c'est un peu une sorte de droit au bonheur qui d'un coup, quand il arrive et quand il est attendu, on se dit « enfin, enfin j'y ai droit ». Et c'est un moment extraordinaire.
Mais surtout après être passé par le deuil que vous avez vécu et évidemment toutes les sensations de douleur, de tristesse intense qui accompagnent la perte d'un enfant qui est quelque part une injustice et donc qui est difficile à comprendre et à admettre. Je pense qu'effectivement le terme de bébé arc-en-ciel est très bien trouvé parce que l'arc-en-ciel reste quelque chose qui paraît féerique.
Oui. C'est tout à fait ça. Je pense que d'un coup, ça devient presque miraculeux d'y être arrivé. Parce que oui, la perte d'un bébé, ou c'est une douleur voilà, incommensurable. C'est une remise en question de soi-même, de qui on est, de sa capacité à être mère. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de solitude, parce qu'on est aussi coupé un peu des autres. Les gens comprennent très peu. Et puis il y a ceux qui veulent essayer de comprendre, il y a ceux qui ne veulent pas du tout comprendre, parce que c'est un deuil qui aujourd'hui n'est pas forcément admis. On l'a vu il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, où il y a un énorme débat qui fait polémique, parce que voilà, il y a des gens qui disent qu'on n'a pas le droit de donner un prénom à un bébé qui est décédé. Donc voilà, c'est un deuil où finalement, comme c'est une mort qui arrive à un stade où normalement c'est la vie qui doit être au-dessus de tout, c'est un deuil où les gens se retrouvent très très seuls, très fragiles, et il y a un besoin d'entourage, un besoin de compréhension, d'où l'importance de cette journée du 15 octobre. L'idée n'est pas en fait de mettre en avant la mort sur cette journée-là. En fait, l'idée, c'est juste de montrer qu'il faut accepter ce deuil, accepter ces bébés qui ont existé, accepter que ce sont des parents qui sont devenus maman et papa à leur tour autrement. Mais en tout cas, c'est important qu'il y ait une reconnaissance pour qu'en fait, les parents qui, eux, continuent de vivre, en fait, continuent réellement de vivre.
Oui, complètement. Et puis, c'est vraiment donner une légitimité et une existence à ces enfants qui, finalement, le reste du temps ne sont pas vus ou visibles. Donc, alors, c'est vrai qu'on va en reparler, justement, de cette polémique actuelle sur le deuil périnatal. Donc, si pour mémoire et pour rappeler à nos auditeurs qui n'auraient pas suivi, Cyril Hanouna, bref, on va pas le juger, mais bon, voilà, qui est donc animateur de TPMP, a eu l'indélicatesse d'interroger ses chroniqueur sur la visibilité que Chrissy Teigen a donnée à la naissance de son quatrième enfant, je crois, ou troisième enfant.
Oui, troisième enfant, je crois.
Qui est donc décédé in utero, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait.
Voilà, qu'elle a prénommé, ses chroniqueurs ont été très maladroits, voire... je pense que c'est même pas de la maladresse, c'est presque de la provocation, en estimant que la visibilité était trop importante et qu'en plus de prénommer cet enfant était de l'ordre presque du malsain, en fait.
Tout à fait.
Je pense que pour en arriver à se positionner comme ça, il faut vraiment ne pas avoir d'enfant, je pense, ne pas pouvoir envisager ce qui peut arriver quand les grossesses se passent pas bien ou la naissance se passe pas bien. Et évidemment, c'était renier l'ensemble des parents et de la communauté de parents qui ont des enfants étoiles, des petits anges. C'est extrêmement maladroit, et je pense que, je pense qu'en même temps, quelque part, ça aura peut-être le mérite de soulever le débat et de donner un peu plus de visibilité.
Oui, effectivement, ça. Il faut voir le verre à moitié plein, qui est, voilà, ça a permis aussi peut-être à beaucoup de parents de porter leur voix en exprimant sur les réseaux sociaux le prénom de leur enfant. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est important en tout cas d'avoir une ouverture d'esprit et une bienveillance sur ce sujet. Je pense que quand les gens sont dans la douleur, il n'y a pas à juger en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir. Ceux qui ont la chance de ne pas avoir vécu certaines douleurs, alors que ça peut être lié au deuil, ça peut être lié à la maladie ou toute autre chose, en fait je pense qu'il faut juste savoir écouter et ne pas porter de jugement. Il y a des choses, tant qu'on les a pas vécues, et c'est tant mieux si on ne les vit pas,
oui, c'est clair.
Ne disons rien, ne jugeons pas, n'émettons pas d'avis. Il faut juste savoir que la douleur, en tout cas quand elle arrive, elle est bien là. En tout cas là, par rapport aux photos qui ont été diffusées, peut-être qu'il y a 4 ans, je me serais peut-être dit effectivement qu'ils mettent ça en avant, quelle horreur. Mais il y a 4 ans, moi, j'ai perdu Simon. Donc, c'est le prénom de mon premier enfant. Les photos que j'ai vues, moi, personnellement, je ne les aurais pas partagées. C'est un choix. C'est le choix de chacun. Mais quand je vois ces photos, ce sont des situations que j'ai vécues. Et je peux confirmer sur tout ce que j'ai de plus cher qu'il n'y a pas de scénarisation, il n'y a pas d'envie de se mettre en avant. la douleur est telle qu'on essaie de gérer comme on peut, en fait.
Voilà. Oui, complètement. Je tiens à préciser que ces photos sont tout ce qu'il y a de plus commun dans le cadre d'une maternité où l'enfant naît en vie. Ce ne sont pas des photos qui sont choquantes. Par contre, on voit effectivement la douleur des parents d'avoir perdu cet enfant. Et aujourd'hui, je pense qu'on partage sur les réseaux sociaux des choses bien pires, bien plus sensibles, entre guillemets, enfin plutôt bien plus trash, j'ai presque envie de dire. Là, honnêtement, moi, les photos m'ont absolument pas choquée. Au contraire, enfin, j'y ai vraiment vu la douleur d'un parent de perdre son bébé et rien de plus, en fait.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la provocation, elle peut se jouer sur beaucoup de sujets, mais il y a certains sujets sensibles où il faut faire attention à ce qu'on dit, d'autant plus quand on est une personne publique. Souvent, on dit qu'on peut rire de tout et qu'on peut parler de tout, mais il y a quand même des précautions à avoir. Derrière des phrases qui sont lancées, ben, en fait, ce sont des gens, tout simplement, qui reçoivent ces phrases-là en plein visage. Et en tout cas, pour moi, c'est comme si on m'avait dit je n'aurais jamais dû donner de prénom à Simon, ou comme si... finalement, j'avais scénarisé mon livre ou ce que je partageais sur les réseaux sociaux. J'ai été extrêmement touchée. J'en ai presque pas dormi de la nuit tellement ça m'a remué. Je n'exagère pas. Et je pense qu'on a été nombreux au vu du mouvement qui est là. Et oui, je pense que Quentin, si tu as raison, il faut retenir le point positif de tout ça, qui est que ça a permis de sensibiliser et peut-être de donner du courage aux parents de parler de leur enfant décédé.
Oui, en tout cas, moi, c'est ce que je constate effectivement. Alors, plus particulièrement sur Instagram, où il y a un vrai mouvement qui s'est lancé. J'espère honnêtement que ça va aller dans le bon sens. Et j'attends qu'une chose, c'est qu'il présente ses excuses et que ses chroniqueurs présentent leurs excuses.
Écoute, je l'espère aussi. Après, je sais qu'on est très loin de ce monde-là et de ces gens-là. Donc voilà, j'espère qu'ils auront en tout cas la délicatesse si... quelque chose, en tout cas, arrive à les toucher, en tout cas, s'ils arrivent à voir un message, qu'ils réagissent, en tout cas. Qu'ils ne cherchent pas le million de likes ou le million de buzz, je ne sais pas comment l'exprimer, pour en parler, en fait. On n'est pas des gens de la télé-réalité, on n'est pas des gens qui voulons se mettre en avant à tout prix. J'ai rien contre les gens de la télé-réalité, bien évidemment, mais on ne cherche pas à faire de buzz pour du buzz. On attend juste du respect, voilà, tout simplement.
Oui. Et puis c'est une façon aussi de continuer à faire vivre la mémoire de votre enfant quelque part.
Tout à fait. C'est très important et je pense que cette polémique qui arrive en pleine semaine du 15 octobre arrive quelque part à un moment où les sensibilités sont assez marquées. Donc j'espère juste qu'ils auront la délicatesse et le respect des gens de s'excuser.
Écoute, on va essayer de le croire et de se dire que peut-être qu'en plus, avec la journée qui arrive du 15 octobre, ça va les faire se remettre en question.
Oui, tout à fait.
Et donc, du coup, on va rebasculer sur ton histoire, enfin, globale, je veux dire. Donc, tu me disais que Joseph était arrivé suite à un long parcours de PMA. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de votre parcours ?
Oui, alors en fait, nous, notre parcours... il a été long par l'attente parce que on a été donc là je reviens pas du coup sur le deuil périnatal de Simon mais sur la perte. Mm-hmm. En tout cas, on a mis longtemps à se dire qu'on avait besoin d'aide. Je trouve que c'est pas évident d'accepter de se dire qu'en fait ça marche pas aussi vite qu'on aimerait, ça marche pas comme on le souhaiterait parce que en tout cas moi pour ma part, je suis quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses. Et tout d'un coup, là, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas.
Oui, c'est clair.
Voilà, donc ça ne dépend pas de nous et ce n'est pas évident à accepter. Donc voilà, c'est un parcours qui a duré au final, si je reprends, le tout et pour tout, on est quasiment sur 4 ans au total. Donc c'est assez long. Quand l'envie est là, surtout d'avoir un enfant, ça... quand tout d'un coup on veut devenir parent, ça vous prend d'un coup et il faut que l'enfant il soit vite là parce qu'on a envie de donner tout l'amour que l'on a en soi. Donc voilà, c'est un parcours qui s'est fait via des injections, via des hormones pour essayer que ça passe avec pas mal d'échecs et puis bon, une réussite. La chance qu'on a eue, c'est que donc on a fait un premier parcours PMA pour Simon, et puis on a refait pour Joseph. La chance qu'on a eue pour Joseph, c'est que ça soit arrivé assez vite.
D'accord.
Part, c'était presque du, ça tenait du miracle, même le médecin n'en venait pas. Mais c'est un parcours qui est long et difficile. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tant qu'on n'y est pas confronté, on ne peut pas se rendre compte de ce que ça représente. Mais c'est un parcours qui est difficile pour plein de raisons. Au-delà des piqûres, voilà, qui sont difficiles à vivre. Je crois que pour moi, le plus difficile, c'est finalement de se dire que tout se passe au même endroit où on voit d'autres femmes qui sont enceintes.
Oui, complètement.
Et voilà, je trouve. Alors, j'aurais pas aimé forcément le faire à un autre endroit parce que je me serais sentie mise à l'écart. Mais je trouve ça difficile d'être dans une salle d'attente où tu n'espères qu'une chose, c'est finalement avoir un oui, c'est bon, ça a marché. Et de voir plein de femmes enceintes autour de toi, je trouve que ça fait naître une frustration assez forte.
Oui, c'est vrai que c'est un peu tout le paradoxe des centres de PMA qui se trouvent en plein cœur des maternités au final. Alors c'est vrai que quand on y réfléchit, ben, ça touche à la même chose finalement, donc la maternité. Mais c'est parfois très difficile à gérer de se retrouver dans un parcours où si on entre dans ce parcours-là, c'est qu'on est en échec de procréation naturelle, on va dire, que ce soit pour un couple hétéro ou un couple homo. Alors nous, évidemment, on sait très bien qu'on va devoir en passer par là, donc la démarche est encore différente et peut-être moins difficile pour certains, j'entends, parce que pour d'autres, ça l'est. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile de se retrouver, et en plus d'avoir à gérer des échecs en plein milieu d'une maternité accompagnée de maman, enfin de futures mamans et de mamans sur place, quoi.
Oui, tout à fait. J'ai eu ça. Et puis, en fait, nous, en même temps qu'on était dans l'attente de Joseph, en fait, il y a un moment donné où on n'y croyait tellement plus qu'on s'est aussi intéressé à l'adoption en se disant, on a quand même, on espère un jour pouvoir devenir parent. Et là, ça a été aussi compliqué. On a compris qu'on était trop vieux. On avait plus de 30 ans. Voilà. Maintenant, on devient vieux très vite. Et puis c'était compliqué parce que il y avait toute une quantité de démarches administratives et on a tout de suite fait comprendre que c'était compliqué pour nous et parce que ben voilà on s'approchait plus de la quarantaine parce que il y a des gens qui sont plus prioritaires que d'autres voilà et aussi parce que derrière c'était avoir des enfants où potentiellement il y avait beaucoup de maladies. Oui. Donc moi je tire mon chapeau aux parents qui adoptent, mais voilà, ce sont des parcours compliqués et on s'est retrouvés à un moment donné en se disant mais en fait on n'aura jamais la chance d'être parent et c'est vrai que la PMA c'est une solution miraculeuse. Et pour la petite parenthèse, quand je vois les manifestations qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, enfin, je pense que les gens ne se rendent absolument pas compte de ce que c'est que de ne pas pouvoir avoir d'enfant quand on désire en avoir un.
Je pense que ça les dépasse surtout.
Ça les dépasse parce que c'est... Oui, c'est peut-être inentendable de dire qu'on ne peut pas avoir d'enfant, mais quand tu le vis, en fait, tu t'en fiches de la manière dont tu vas avoir ton enfant. Ce que tu veux, c'est avoir un enfant à qui tu vas donner de l'amour, tout simplement, en fait. Je pense que ça ne va pas au-delà. Donc voilà, c'était juste pour pousser mon petit coup de gueule sur les manifestations qui ont eu lieu il y a quelques jours et qui m'ont fortement énervée aussi. Je ne suis pas réac en général, mais voilà.
Non, mais est-ce que je peux... Enfin, je ne veux pas te jeter la pierre pour le coup, parce que nous, évidemment, ça nous touche de plein fouet. Je pense surtout qu'en fait, c'est avant tout une question, hélas, là, de croyance, alors qu'elle soit religieuse ou tout simplement ancrée en soi, hein. Et je pense que du coup, c'est des personnes qui n'arrivent pas à prendre de hauteur et qui ne se retrouvent, enfin, qui se disent que si tu ne peux pas avoir d'enfant, faut juste l'accepter. Sauf qu'ils ne se retrouvent pas confrontés à cette situation-là pour penser comme ça, je pense.
Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'ils voient l'enfant comme un miracle entre guillemets naturel, mais je pense que le fait de vouloir un enfant. De lui donner la vie, de l'aimer. En fait, je pense que il est là le miracle, en fait. Le miracle ne se situe pas juste au moment des quelques secondes de conception, en fait.
Oui, complètement.
Le miracle, c'est voilà, d'avoir un enfant qui grandit, dont on s'occupe bien. Je pense que pour s'occuper d'un enfant, il n'y a que l'amour qui compte.
Complètement, complètement. Et alors, on en revient à votre parcours de PMA. Tu me dis qu'il a duré 4 ans. Dans ces 4 ans-là, on est d'accord que vous avez eu donc la naissance de Simon. Enfin, vous avez donc eu la conception et la loi du positif de Simon, puis sa naissance. Oui. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce parcours-là, indépendamment de celui de Joseph, sur lequel on reviendra après?
Oui. Le parcours pour Simon, du coup, donc on était aussi dans la PMA. C'est un parcours où finalement tout s'inscrivait parfaitement bien. Au-delà du cheminement d'avoir besoin de l'aide, au-delà des protocoles qui ont été difficiles à vivre, parce que au-delà du psychologique, c'est quand même une sacrée dose, hein, toutes ces hormones qu'on s'injecte.
Complètement.
Et c'est pour la bonne cause, donc on le fait. C'est une grossesse qui s'est très très bien passée. J'avais juste énormément de fatigue, mais voilà, en somme, rien de bien extraordinaire. Et qui malheureusement, en fait, j'étais au terme de ma grossesse, s'est arrêtée. Tout simplement parce que j'ai eu une tumeur du placenta, donc un cancer du placenta, qui au moment des premières contractions en fait a coupé l'arrivée d'air pour Simon, d'oxygène. Mm-hmm. C'est un peu comme si, le médecin m'a expliqué, c'est comme si en fait on avait eu un accident de voiture et que l'airbag s'était ouvert sur mon ventre, donc sur un ventre de 9 mois de grossesse. Donc le choc a été quand même extrêmement fort. Et voilà, ça lui a coupé la vie.
D'accord. Et donc c'était au moment où tu étais en travail, hein, donc tu partais accoucher, quoi.
Alors c'était juste un peu avant en fait. Moi j'avais fait un rendez-vous chez ma sage-femme qui me faisait de l'acupuncture parce que j'avais très peur de rater le bon moment. J'avais peur de pas comprendre comment ça, le déclenchement, en tout cas le début de l'accouchement. Mm-hmm. Donc je m'étais programmée tous les deux jours des séances pour être sûre en me disant que si elle me voit, si elle voit que ça commence, elle va m'alerter. Et donc voilà, en fait, mm-hmm. c'est au moment où elle a commencé à me poser l'ensemble des appareils pour faire ma séance d'acupuncture où elle n'a pas entendu le cœur de Simon. Et donc là, j'ai vu voilà, ses mains qui tremblaient. Et elle a réessayé plusieurs fois. On était dans un espace médical, en tout cas, où mon gynécologue n'était pas très loin. Et j'ai vu donc, les mains de ma sage-femme qui tremblaient, qui m'a dit « Écoutez, on va voir le médecin tout de suite ». Et, mm-hmm. et avant même qu'on aille voir le médecin, j'ai compris qu'il y avait un problème, mais que c'était un problème sérieux. C'était pas juste son appareil d'échographie qui fonctionnait pas. Un quart d'heure après, donc, on était auprès de mon gynécologue qui commence à brancher la sonde pour vérifier les battements. Il enlève le son et voilà, j'ai compris à son visage. Ça a duré trop longtemps en fait. Il cherchait trop longtemps le cœur, et puis en fait je pense qu'il a aussi surtout cherché longtemps ses mots pour je rigole, hein, c'est une manière de pouvoir continuer à parler, mais il a surtout cherché ses mots pour pouvoir m'annoncer la mauvaise nouvelle, comme quoi le cœur de Simon mm-hmm. s'était arrêté.
D'accord. C'est vrai que je me doute que pour nous, ben, pour vous parents, ça devait être une nouvelle terrible, mais je pense que le personnel médical il est quand même relativement peu confronté, et quand ça se passe comme ça, ça doit être difficile de trouver les mots.
Oui, je pense que ça fait partie quand même des cas rares, et en même temps, tant mieux, hein, la vie, c'est elle qui doit triompher. Mais je pense que pour les médecins, c'est quelque chose de très compliqué à vivre, parce qu'ils ont face à eux deux personnes, mais dans un désarroi total, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment mis du temps à comprendre, quasiment jusqu'à l'accouchement, parce que j'étais déjà un petit peu j'avais commencé un petit peu le travail finalement. Lorsqu'ensuite donc on m'a mis dans la chambre d'accouchement, j'avais toujours l'idée de me dire qu'en fait il allait revenir à la vie. C'est pas possible, ça se passe pas comme ça en fait. J'avais jamais entendu parler de bébé qui décède, ou alors j'en avais entendu parler mais j'y ai pas prêté attention. Et voilà, jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'il allait pouvoir se réveiller. Enfin, je me souviens même que j'avais demandé au médecin de m'ouvrir le ventre et lui faire un massage cardiaque, parce que c'est comme ça que ça marche, normalement.
Oui, mais complètement.
Non, ça ne marche pas comme ça. Et voilà, il y a tout, en fait, on passe par toute une phase d'émotion assez paradoxale, où il y a une tristesse infinie, sur le coup, hein, je parle, et puis des moments où en fait on est rentré dans des phases d'humour noir avec mon mari, à faire des blagues complètement déplacées. Je pense que c'est aussi une manière de gérer tout ça. Mais il y a un moment où vient l'acceptation, Pour ma part, elle a mis très longtemps à arriver. La vraie acceptation de la perte de Simon est arrivée, je pense, au bout de 8 mois après son décès, en me disant, là, j'ai vraiment accepté qu'il était parti. Donc, c'est un processus très long.
C'est ça. C'est un processus très long qui n'est pas, qui rentre pas dans le cadre de la vie normale, en fait. Donc, je pense que chacun vit son deuil à sa façon, certes, mais le temps qu'il lui faut, certes, mais ça reste un processus long. Par contre, ce qu'il faut retenir, et c'est ce que moi je retiens de ton histoire, c'est tout l'espoir que tu véhicules actuellement.
Oui, je pense que c'est important de, à un moment donné, de se donner toutes les chances de continuer à vivre, en fait.
Oui. Quand on lit ton livre, on se rend compte de l'ensemble des phases par lesquelles tu es passé, alors qu'ils sont en soi les phases théoriques du deuil, mais bon, tant que t'es pas dedans, clairement, je pense que tu peux pas te rendre compte. T'as mis beaucoup de temps, et c'est normal, et avec ton mari aussi, qui a été ton roc, hein, si j'ai bien suivi, vous avez mis beaucoup de temps à réussir à avancer, à franchir le cap. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous êtes relancé? Comment tu as pu envisager d'avoir un bébé arc-en-ciel en suivant?
Comme tu le dis, effectivement, ça a été un processus assez long. La première année suite au décès de Simon, c'était une idée. L'idée de l'enfant d'après était juste inenvisageable pour deux raisons. La première, c'est tout d'abord d'un point de vue médical, où je n'avais pas le droit de retomber enceinte.
Mmh. Voilà. À cause de ton cancer.
Moi, j'ai pas eu de cancer à proprement parler, mais j'ai été porteuse d'un cancer, donc voilà, ça me met encore dans une case des maladies rares. La deuxième raison, c'est qu'en fait, dans ma tête, c'était inenvisageable. C'est-à-dire que j'avais Simon et je ne pouvais avoir personne d'autre. Je ne concevais pas le fait de pouvoir aimer un autre enfant. C'est-à-dire que tout l'amour que j'avais était pour Simon. Je ne me voyais pas devenir mère encore une fois. J'avais peur aussi. J'avais peur d'un autre échec. J'avais peur d'encore de pas y arriver. J'avais peur de tout ce que ça signifiait. Mais c'est surtout cette notion d'amour que je n'arrivais pas à... J'arrivais pas à concevoir l'idée qu'on puisse partager l'amour, en fait. Et j'ai mis du temps, en fait, à comprendre que l'amour, en fait, qu'on a pour un enfant, on va pas d'un coup le partager et donner la moitié à un autre, en fait. J'ai compris, en fait, que l'amour, il s'agrandissait, en fait. Donc ça a été assez long pour moi. Et puis, en fait, il fallait aussi se sentir prêt. Je pense qu'il est important pour l'enfant d'après, mais ça c'est mon opinion, c'est d'être sûr de pas avoir de confusion avec l'enfant qu'on a perdu. Et pour moi c'est important, je ne voulais pas en tout cas un autre enfant qui vive dans l'ombre de Simon. Dans l'ombre d'un enfant décédé, je pense qu'il ne peut y avoir rien de pire. Et je voulais en fait vraiment désirer cet autre enfant, donc moi j'ai toujours voulu en avoir deux. Mais il fallait que je sois prête pour l'enfant d'après, pour que cette grossesse soit la grossesse de Joseph, pour que au-delà de mon histoire à moi qui est difficile, que cette histoire-là ne l'impacte pas à lui, en fait.
Ah oui, complètement. C'est vrai que l'enfant d'après a le droit à sa vie, à lui, avant toute chose.
En fait, j'ai eu la chance de rencontrer un jour une maman qui était restée trop longtemps dans le deuil de son premier enfant, et du coup l'enfant d'après l'a ressenti et lui a dit les choses. Et il lui a dit, mais maman, moi je suis là, moi je suis bien en vie. Et en fait, quand elle m'a partagé son expérience et son histoire et finalement les difficultés qu'elle a eues à être prête pour l'enfant d'après, je crois que ça m'a alertée sur ce que moi je devais essayer en tout cas de faire. Et aussi, ça m'a montré qu'il était important de partager ces différentes expériences, parce que c'est aussi ce qui permet de mieux appréhender sa propre histoire, en fait.
Oui, tu disais dans ton livre notamment que tu t'es, en tout cas sur ta première année, justement, tu t'es donné pour mission d'arriver à trouver une personne qui aurait vécu la même chose que toi, pour tout simplement pour te dire que ça allait aller bien et que tu allais pouvoir avancer malgré tout, que tu n'as évidemment pas trouvé. Alors, je dis évidemment parce que ton cas est tellement rare que je pense que c'est relativement difficile de trouver quelqu'un qui a vécu exactement la même chose. Par contre, tu notais que, enfin, tu nous informes en tout cas, et je pense que c'est très important pour les mamans à qui ça pourrait arriver, et les papas d'ailleurs, c'est qu'il existe de grandes communautés de parents, de parents, de personnes qui ont, enfin, de parents qui ont perdu un enfant, pas que dans le cadre du deuil périnatal. Et je pense que finalement, c'est une grande force et cette communauté d'entraide.
Tout à fait. En fait, lorsque tout ça est arrivé, c'est comme si je découvrais un autre monde. Je reprends, je crois, presque les mots que j'ai dans le livre. C'est vraiment un monde parallèle où, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vivent avec des douleurs, qui vivent avec des pertes, avec des deuils, avec des histoires terribles. Et qu'en fait, ces gens continuent d'avancer et que dans leur avancée, en fait, ils transmettent quelque chose aux nouveaux arrivants, aux nouveaux tristes arrivants. Et il y a un vrai partage, il y a un vrai soutien. Ce sont souvent des gens qu'on ne rencontre pas, c'est-à-dire qu'on va discuter avec eux via les réseaux sociaux. Mais ce sont des discussions très bienveillantes, des discussions où on partage finalement ce qu'on a de plus précieux en soi. On ne connaît rien de nos vies, hormis les drames qui nous rapprochent. Mais c'est vraiment des mains tendues, en fait. Et j'ai été vraiment, comment dire, éclairée à ce moment-là en me disant, mais en fait, il existe autre chose dans la vie que cette liste ultra positive des choses à faire que je m'étais écrite et que je voulais cocher à tout prix. Et en fait, ces gens-là m'ont énormément enrichie. Il y a eu des gens que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai. Il y a eu des gens que j'ai au téléphone. Il y a eu des gens avec lesquels j'échange des lettres par écrit. D'autres sur Internet, Facebook, Instagram. Mais en fait, c'est une richesse humaine qui fait que, en tout cas moi, pour ma part, ça a contribué à pouvoir me relever, à me sentir plus forte et à me dire qu'aujourd'hui, j'ai peut-être aussi une petite contribution à avoir et ça sera ma manière de remercier toutes ces personnes qui m'ont aidée.
Et c'est exactement ce que tu fais et ce que tu as mis en place. Donc déjà, tu disais dans ton livre, et puis bon, ton livre en est la preuve, que tu as noirci énormément de pages pour arriver à évacuer, à mettre des mots sur ce que tu ressentais. Et donc, qui s'est donc traduit par ton livre qui s'appelle donc « À vif ». Aujourd'hui, je pense que quand je vois ta communauté, tu aides beaucoup, beaucoup de parents qui sont dans cette situation.
Comme je dis toujours, en fait, avec ce livre, c'est finalement l'ami que moi j'aurais voulu avoir à côté de moi, c'est-à-dire qui me dit rien, mais qui... C'est une amie qui est juste à côté de moi, qui me dit rien et qui en même temps m'apporte beaucoup. Je crois que le livre a joué ce rôle-là, et je le dis en toute humilité. C'est un livre, en fait, qui, pour moi, me permet de me dire que Simon, en fait... a existé, que sa perte a un sens quelque part, même si c'est toujours dur de dire ça. Mais en fait, si j'arrive à transformer cette douleur et en faire quelque chose de positif, je crois que c'est là où j'aurais gagné, je crois que c'est là où on aura tous gagné, en fait. Je crois que l'idée n'est pas de chercher du positif à tout prix et de croire au miracle ou licorne, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Je suis quelqu'un de plutôt pragmatique et d'assez terre à terre, mais je crois qu'il faut transformer les choses quand on peut le faire, parce que la perte d'un bébé, c'est quelque chose qu'on subit, qu'on ne choisit pas. Par contre, ce qu'on peut choisir et ce qu'on peut décider, c'est la manière dont on va continuer à vivre et d'avancer.
Je pense qu'effectivement, c'est la bonne vision des choses et c'est le message à faire passer, parce qu'effectivement, chacun... vit sa vie à sa façon, vit son deuil à sa façon, mettra le temps qu'il mettra, et il n'y a aucune règle à se poser par rapport à ça. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est cette force que tu véhicules. Tu as vécu quelque chose qui est invivable quelque part. Tu survis à ton enfant et c'est inenvisageable. Et malgré tout ça, tu penses avant tout à transmettre, avant de te reconstruire toi presque. Mais c'est aussi ta façon de te reconstruire.
Oui, je crois que tout s'est fait en même temps. En même temps que j'écrivais, en fait, la première fois où j'ai partagé un premier texte, c'était suite donc à la marche du 15 octobre, donc la première marche que j'ai pu faire. J'ai partagé mon texte, en tout cas pour remercier les gens qui avaient organisé la marche, et puis ils l'ont partagé. Et puis il y a eu des retours, les gens étaient touchés, ils m'ont remercié et je crois que ça m'a fait du bien de me sentir utile, de me dire que j'avais... C'est assez dur ce que je vais dire, mais Dans ma tête, je me disais, j'ai pas réussi à avoir un enfant, j'ai pas réussi à faire un enfant, à faire en sorte qu'il vive. Au moins, je vais réussir à faire ça. C'est de se dire qu'on a quand même un sens dans notre existence et qu'on peut quand même apporter aux autres. Et je crois que oui, tout s'est fait en même temps. L'écriture a vraiment été l'effet déclencheur. Ça a permis des choses incroyables que... Enfin, on m'aurait dit il y a 20 ans, tu vas écrire un livre. Bon, j'aurais rigolé, mais ça m'a permis des rencontres, des échanges. Ça m'a permis de te retrouver aussi.
Aussi, c'est vrai.
Donc voilà, je crois que des fois, il y a des choses qui peut-être étaient écrites, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'écriture a eu le don de me faire avancer, de me faire avancer avec les gens. Et je crois que c'est peut-être aussi pour ça que les gens ont vu qu'il y avait la sincérité derrière tout ça. Voilà, c'est des émotions que je pose et peut-être que certains s'y sont retrouvés dedans parce que je le fais de la manière la plus simple qui soit et sans aucune triche possible.
Oui, et puis encore une fois, je pense que même si effectivement on commence vraiment à entendre parler de cette journée du 15 octobre depuis 2-3 ans, je dirais, même si elle existe depuis bien plus longtemps, c'est très important pour les personnes qui, comme nous, j'ai envie de dire, avant que tu puisses y avoir une perte. Moi, j'ai pas eu de perte et j'en suis évidemment rassurée, j'ai envie de dire. Si tu n'es pas sensibilisé ou que tu n'es pas passé par là, tu n'imagines même pas ce monde qui peut y avoir et qui peut t'aider quand ça t'arrive. Donc, je pense que plus tu vulgarises, on va dire, la possibilité du deuil périnatal, et plus, en fait, tu vas pouvoir accompagner des gens qui se retrouvent dans cette situation. Oui.
C'est exactement ça et pour moi aussi ce qui est important c'est que je ne veux pas être le visage du deuil périnatal en fait dans ce que je véhicule. Moi je veux aussi être, tu me disais tout à l'heure voilà tu fais preuve de courage et de force. L'idée c'est montrer en fait qu'une vie après est possible. C'est pour ça qu'au départ par exemple je m'étais posé la question sur si mon histoire était contée, est-ce que je parle de Joseph, est-ce que j'en parle pas. Et en fait, je pense qu'il était important de parler de la vie d'après, qui est une vie où on a droit au bonheur, où des belles choses nous arrivent, sur le plan personnel, sur le plan professionnel aussi, où d'un coup, on peut aussi changer des choses. Mais il y a une vie après ça. C'est pas juste quelque chose qui reste figé à un instant donné, et on n'est que dans la douleur. La douleur évolue, le deuil évolue, et en fait, le deuil se vit, et peu à peu, la vie reprend ses droits sans pour autant jamais oublier. Mais en tout cas, voilà, c'est le message que je veux véhiculer. Et c'est important pour moi que des mamans qui vont vivre peut-être pour la première fois cette journée du 15 octobre sachent que dans quelques années, la douleur aura évolué, elle se sera transformée, et il y a de belles choses qui arrivent toujours, en fait.
Et du coup, parlons-en de la vie d'après. Donc, après cette première année où tu n'avais donc évidemment pas le droit de retomber enceinte, vous vous êtes relancée dans le parcours PMA en suivant, vous avez encore attendu un peu, il a fallu ce fameux déclic dont tu m'as parlé.
Non, on s'est relancé tout de suite. Le déclic est arrivé très vite. Je crois que la quarantaine d'un an était suffisamment longue. Et là, voilà, pour le coup, on a eu la chance que les choses arrivent assez vite. Je suis retombée enceinte dans l'année. Dans la deuxième année.
Ah oui.
Ouais. Donc voilà, c'était une grossesse miracle. Vraiment, c'est... Et je crois que je n'ai jamais vécu chaque journée aussi intensément en me disant à la fin de chaque journée qui passe, ok, la journée est passée, tout va bien. Une journée de moins à attendre que Joseph soit là.
Et oui, du coup, comment on la vit cette grossesse ? Elle est différente, certes. Elle est dans la peur, je présume. Oui. Enfin, tu viens de le dire. Comment ça se passe, la grossesse d'après ?
La grossesse d'après est une grossesse, je dirais c'est la grossesse de l'entre-deux, parce qu'en tout cas moi, pour ma part, j'ai toujours été entre deux émotions, entre la peur de perdre Joseph, entre la joie qu'il soit là, entre la culpabilité vis-à-vis de Simon aussi, entre des moments où d'un coup, en fait, certaines étapes de la grossesse faisaient repenser à ma première grossesse. C'est un entre-deux où on avance pas à pas et chaque cap de franchi soulage en fait. On se dit ça y est, on a passé les 3 mois, on a passé tel examen. Mais c'est une grossesse où il faut, qui est difficile, en tout cas qui était difficile pour moi, non pas d'un point de vue médical mais d'un point de vue psychologique parce qu'il fallait se raccrocher à des choses positives et chasser la peur. Donc là, voilà, j'ai fait énormément de sophrologie, d'aptonomie. J'étais arrêtée aussi assez tôt pour vraiment pouvoir avoir le moins de stress possible. Mm-hmm. Parce que j'avais des contractions assez tôt. Et c'est une grossesse où finalement, on commence à mettre un pas dans la vie d'après, dans cette nouvelle vie. Et on accepte finalement que des choses positives peuvent arriver à l'issue d'une grossesse. Voilà. On commence à y croire.
C'est une grossesse qui est plus suivie ?
Pour ma part, ça a été une grossesse plus suivie parce que, alors dans mon cas, médicalement, on ne pouvait pas surveiller à savoir est-ce que j'allais avoir encore un problème médical ou pas. Tout simplement parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas au moment des échographies. Mais c'était une grossesse qui était plus suivie parce que j'avais besoin d'entendre en permanence le cœur de Joseph. Donc, oui. Vers les dernières semaines jusqu'à l'accouchement, je crois que j'allais à l'hôpital 3-4 fois par semaine, juste pour entendre le cœur de Joseph et me déstresser. Mmh. Et j'ai été aussi du coup hospitalisée, donc c'était un accouchement déclenché. Mmh. Je voulais surtout pas arriver au terme de ma grossesse parce que cette date-là me faisait terriblement peur. Oui. Donc j'ai été hospitalisée assez tôt parce que moi, par rapport à mon histoire, j'avais besoin de me sentir rassurée en ayant du personnel médical autour de moi et d'avoir des échographies qui soient faites, en tout cas,
des dopplers.
Oui, voilà, qui soient faites en tout cas plusieurs fois par jour parce que j'avais tout le temps peur que son cœur s'arrête. Dès que Joseph ne bougeait pas, j'avais des peurs et des angoisses terribles qui venaient à moi.
Mmh. C'est vrai qu'on entend souvent dire les mamans qui ont perdu leur enfant in utero que le cap du terme de la première grossesse ou de la grossesse précédente est vraiment très difficile à franchir.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de... C'est comme si d'un coup, ce qu'on avait vécu était en train de se remettre à vivre, en fait. Mmh. Comme si on se retrouvait dans la même situation, comme si... c'était comme s'il y avait deux périodes qui étaient parallèles, elles se concentraient en une seule et c'est très compliqué à gérer parce que la peur et l'angoisse est si forte à ce moment-là que pour le coup, en tout cas, moi j'avais peur que mes angoisses aient un impact sur la vie de Joseph.
Oui, complètement.
Donc j'ai eu la chance d'avoir un médecin et tout un entourage médical qui prennent vraiment acte de ça parce que pour le coup, c'est dans la tête, cette peur-là. Et qu'ils aient fait le nécessaire pour m'accompagner du mieux possible. Et à partir du moment où, la semaine avant le déclenchement, je me suis retrouvée à l'hôpital, je me sentais bien. Je savais que j'étais entourée et que les médecins étaient là s'il y avait besoin d'intervenir.
Oui, ils étaient rassurants.
Oui, tout à fait.
Et alors, comment il s'est passé cet accouchement ?
Cet accouchement était parfait. Parfait dans le sens où je préférais accoucher par césarienne et au dernier moment Joseph s'est retourné, donc chose qui arrive rarement, mais voilà, je pense qu'il m'a entendu.
Oui, c'est
que je voulais un accouchement différent du premier et je voulais être un peu plus en maîtrise, donc Joseph s'est retourné, donc ça c'était la bonne nouvelle, c'était une césarienne. C'est un accouchement où j'ai entendu mon enfant pleurer.
Oui.
Il a poussé son premier cri, je l'ai vu. Il bougeait, il était tout sale, mais c'était génial, c'était parfait. Et puis voilà, je l'ai vu, je l'ai entendu, et plusieurs fois je leur ai demandé, mais vous êtes sûr, hein, il respire, tout va bien. Et la sage-femme qui était là a été très rassurante, très douce, et voilà, c'est un accouchement magique. On donne la vie pour de vrai.
Oui. C'est sûr que c'est ce que tu disais dans ton livre, on donne la vie, pas la mort.
Oui.
C'est la différence principale entre tes deux accouchements. Comment ça se passe la vie d'après avec un bébé arc-en-ciel ? Comment tu intègres Simon à son histoire ? Voilà, raconte-moi tout ça.
Alors la vie d'après, c'est lui qu'on a rêvé tellement longtemps qu'enfin elle est là, donc on savoure. Après, il y a beaucoup de moments absolument extraordinaires, mais la vie de maman, c'est aussi une vie où on ne dort pas beaucoup.
C'est vrai.
Où, voilà, où on apprend à gérer en fait, un enfant qui est en vie. Quand je dis ça, c'est que Simon, ne l'ayant pas connu dans la vie de tous les jours, quelque part, il y a des choses que j'ai imaginées, comme j'ai imaginé pour Joseph quand j'étais enceinte, mais il y a des choses qui sont un peu de l'ordre du fantasme. Des choses qu'on a vues sur des photos où tout est parfait, le bébé est dans les bras, il ne vomit pas, il ne pleure pas, il dort. Et donc là, en fait, le fait de se retrouver confronté à un bébé qui en vit, mais en même temps qui te montre la vraie réalité d'une vie de maman.
Oui, qui a ses problèmes
de bébé. Ça, c'est pas péjoratif. Du coup, il y a une sorte de décalage entre ce qu'on attend et finalement une vie qui est chamboulée. Et quand je dis ça, ça veut absolument pas dire que je voulais pas de Joseph, c'est pas du tout ça. Mm-hmm. C'est juste de dire que il y a des fois des choses qu'on nous dit pas quand on va devenir maman.
C'est le cas dans toutes les grossesses, je crois.
Oui. Donc voilà, il y a eu ce décalage-là qui a été un peu long à mettre en place. Et aussi peut-être parce que, après 9 mois d'attente, j'ai eu une fatigue absolument terrible. Mm-hmm. Un stress qui redescend.
Oui.
Et puis les premiers mois ont été compliqués parce que Joseph faisait des RGO, avait un problème au niveau du lactose. Mm-hmm. Donc voilà, c'est venu un petit peu noircir les premiers mois que j'aurais voulu plus idylliques, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Néanmoins, à chaque fois, je me disais, mais quelle chance folle que de l'avoir, quelle chance folle que de l'entendre hurler, même si je suis épuisée, même si c'est plus des yeux que j'ai, c'était pas possible d'avoir des cernes comme ça, mais voilà, le vrai bonheur est là, et le vrai bonheur, en fait, il est extraordinaire. Après, ce qui est aussi pas évident, c'est du coup toute l'ambivalence qu'il y a entre cet amour pour Joseph et l'amour pour Simon. Mmh. Le fait de voir grandir Joseph est un bonheur inouï, mais ça m'envoie quand même à chaque fois que je ne verrai jamais Simon évoluer comme ça.
Oui, complètement.
Donc, on est toujours dans cet entre-deux, entre les choses qui sont concrètes, qui sont sur la terre, et puis des choses qui sont au ciel. Et cette ambivalence n'est pas facile à gérer. Je dirais qu'en fait, le temps aide aussi à prendre ses marques de maman avec Joseph et avec Simon, où finalement, voilà, les choses s'apaisent de plus en plus. Comme je disais tout à l'heure, ça prend du temps. Mmh. Néanmoins, pour moi, ce qui était important, c'est que Joseph ait vraiment sa place. C'est-à-dire que Joseph est là parce qu'on voulait Joseph. Joseph est là parce qu'on voulait un deuxième enfant. Je lui parle de Simon. On a été au cimetière plusieurs fois, hein, et pour l'anniversaire de décès et de naissance de Simon. Mm-hmm. Néanmoins, maintenant qu'il commence à un peu plus comprendre les choses, je fais attention à la manière dont j'en parle et à la fréquence. J'y vais vraiment tout doucement, pas à pas, parce que ça reste un enfant et que je veux faire les choses bien pour lui. J'ai peur de ne pas le faire de la bonne manière. Je pense qu'il y a vraiment toute une réflexion à avoir autour de ça. Mais il connaît l'existence de Simon. Aujourd'hui, en fait... Mm-hmm. Il était très sensible au tatouage que j'avais sur le bras pour Simon, que j'avais fait faire, donc sur le bras gauche. Mm-hmm. Il le regardait souvent, il aimait bien jouer avec lui. Et pour que Joseph sache que je suis prête à tout, autant pour Simon que pour lui, je me suis fait faire un deuxième tatouage, voilà. Pour Joseph, mm-hmm. cette fois-ci. Je pense qu'en fait, chaque enfant doit savoir que, même s'ils sont plusieurs, il reste unique pour son parent.
Oui, complètement.
Et c'est la manière, en tout cas, dont j'essaie de faire les choses pour Joseph, pour que... Je ne veux pas qu'il soit marqué par ça. Je veux qu'il sache que Simon existait, que ça fait partie de l'histoire de sa famille, mais que c'est l'histoire de ses parents. Ce n'est pas son histoire à lui, et que lui n'a pas de deuil à porter.
Oui, complètement. C'est vrai que c'est la partie la plus compliquée. De toute manière, ce qui est sûr, c'est que tu fais les choses du mieux que tu peux, et c'est la façon dont ce sera le mieux pour Joseph aussi. C'est clair que on veut toujours les protéger, on veut toujours les accompagner du mieux possible. Maintenant, Simon fait partie de votre histoire à tous les quatre, et clairement, au fur et à mesure, il apprivoisera cette histoire avec vous.
Oui, tout à fait. Je pense que le mot apprivoiser l'histoire, et ces mots sont vraiment très bien choisis.
Et alors, tu me disais tout à l'heure que, évidemment, on s'en doute bien, porter le deuil, et particulièrement le deuil d'un enfant, te fait relativiser beaucoup, beaucoup de choses, et surtout voir la vie d'une façon différente. Je sais que tu as changé d'orientation professionnelle et que c'est évidemment liée aussi à ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie à toi d'après ?
Alors moi, c'est vrai que voilà, comme j'avais un peu un parcours de vie qui était un peu inscrit quelque part, en tout cas dans ce que je m'étais imaginé, dans les différentes étapes que j'ai franchies, suite à la perte de Simon, j'ai voulu en fait changer certaines choses parce que je ne me retrouvais plus à ma place. Je crois que j'avais vraiment un vrai besoin de sens, et ce sens-là, je ne le trouvais plus dans mon métier d'avant. Donc voilà, juste pour dire, voilà, j'ai fait des études, j'ai fait une grande école, j'ai eu des postes à responsabilité dans un grand groupe. Voilà, j'étais un peu sur une trajectoire où il fallait toujours monter des marches. Mmh. C'est la vision que je me faisais de la vie. Et puis suite à ça, en fait, en ayant rencontré des gens différents, je me suis vraiment plus sentie à ma place, et j'ai eu besoin d'avoir du sens dans ce que je fais, d'être dans quelque chose de concret, et de me dire que chaque jour que je termine, je vais être fière de ce que j'ai fait. Mais fière, non pas parce que mon travail avant, je ne l'étais pas, mm-hmm. mais parce que je voulais vraiment faire quelque chose de mes mains, et me dire que j'avais aussi, moi, la capacité de peut-être un tout petit peu changer les choses. Mmh. Donc en fait, j'ai quitté ma tenue confortable de cadre dynamique pour enfiler un tablier de boulangère. Mmh. Et avec mon mari, en fait, voilà, on a tout lâché pour se reconvertir dans le pain. On a eu envie de faire du pain de manière très naturelle, donc au levain naturel. On veut travailler avec des produits bio. L'idée, en fait, derrière, c'est j'ai envie d'apporter des bonnes choses pour pour l'alimentation des gens. Tout comme je donnerais à manger des bonnes choses à Joseph, je veux donner des bonnes choses à manger aux gens. Voilà, c'est vraiment cette idée-là qu'on a eue en tête. Et en fait, ça fait un bien fou de sortir d'une trajectoire. On rencontre d'autres personnes, on se rencontre soi-même. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais cru capable de faire. Et voilà, au bout de bientôt 3 ans de reconversion avec mon mari Frédéric, voilà, on va ouvrir notre boulangerie bio locale, complètement en phase avec qui nous sommes devenus aujourd'hui. Et je me demande même si en fait on n'est pas en phase avec qui on était avant, mais on ne savait pas vraiment qui on était.
Oui, complètement. J'ai l'impression qu'effectivement ça vous a permis surtout de vous connaître finalement, tu vois, au plus profond de vous-même.
Oui. Je pense qu'il y a des épreuves dans une vie comme ça qui vous chamboulent tellement que c'est la seule personne finalement que vous rencontrez, c'est vous-même. Et je suis aussi contente d'avoir pu transformer la douleur de cette manière-là. C'est-à-dire d'être allée jusqu'au bout du geste, que ce soit via l'écriture, que ce soit avec, bien évidemment, avec Joseph qui arrivait après, avec ce nouveau métier. C'est aussi de se dire qu'en fait, la vie est très fragile, donc il faut en profiter. Il faut se donner les moyens de prendre ses décisions, de faire ses choix, de vivre ses rêves. Hein. Et quand je dis ça, c'est pas utopique. Je pense qu'il faut se dire que certaines choses sont entre nos mains. Et que si ces choses-là sont entre nos mains, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas attendre.
Mmh. Et du coup, je vais rebondir. Alors, Ça vient avec ce qu'on vient de dire, mais ça vient aussi avec ce que tu as abordé tout à l'heure et ce dont on a parlé notamment par rapport à TPMP. Cette question, j'avais prévu de te la poser bien avant la polémique. C'est une question qui est relativement sensible, mais on sait que, et tu l'as dit, que l'entourage ne sait pas accompagner dans le cadre d'un deuil globalement, c'est pas simple, mais alors d'un deuil périnatal, c'est très compliqué, voire c'est inenvisageable. Quel conseil toi tu pourrais prodiguer à l'entourage, et qu'est-ce que tu aurais aimé rencontrer comme réconfort au moment où vous avez perdu Simon?
Je pense que la chose la plus importante, c'est de ne pas faire comme si rien ne s'était passé.
Oui.
Souvent on pense que si on en parle, on va appuyer là où ça fait mal. Alors oui, ça fait mal, ça c'est sûr. Néanmoins, le fait de ne rien dire, je crois que c'est la pire des choses. Le fait de ne montrer aucune attention. Alors, l'idée, c'est pas forcément d'en parler pendant des heures, parce que moi, pour ma part, j'avais pas forcément envie qu'on m'en parle des heures et des heures. Mais un petit message, un petit SMS, une petite pensée pour le jour de l'anniversaire. Le fait de dire le prénom aussi, parce que cet enfant, c'est pas ce qui s'est passé, c'est le décès de Simon, c'est le décès de un autre prénom. Il faut nommer les choses, il faut en parler pour montrer juste qu'on est là et que en fait on prend, comment dire, on prend acte du fait que c'est un enfant qui a existé, mmh. et qui a réellement existé, même si nous on l'a pas vu, on l'a pas rencontré pour l'entourage. Mais je crois que cette reconnaissance là c'est ce qu'il y a de plus important. Et après aussi, c'est d'accepter que ça prend du temps. Souvent, les gens peuvent avoir des phrases très maladroites sans vouloir. Enfin, ils veulent pas forcément faire mal, mais on peut pas dire allez, passe à autre chose, c'est fini. Non, ça c'est pas possible en fait. C'est un deuil qui dure toute une vie. Moi, ça fait donc 4 ans. Il y a encore des journées qui sont très difficiles à vivre. Mmh. Et je pense qu'en fait, j'aurai 70 ans, j'y penserai encore. J'y penserai forcément autrement parce que les choses évoluent, mais il faut accepter cette notion de temps. On ne peut pas perdre un enfant, perdre l'espoir d'une vie, perdre l'espoir de devenir maman réellement sur Terre et passer à autre chose. C'est pas juste une paire de chaussures que j'achète, elle ne me plaît plus, allez, j'en achète une autre. C'est pas ça. Donc voilà, je dirais que cette reconnaissance, de faire attention et voilà, si vous connaissez des gens dans votre entourage, ayez cette petite pensée, ayez ces petits SMS, dites ce prénom, c'est tellement pas grand-chose, mais c'est énorme ce que vous pourrez faire pour ces parents, que ça touchera vraiment au plus profond d'eux-mêmes, et je pense que c'est la plus belle preuve d'amitié qu'on puisse donner à quelqu'un.
Ouais, c'est légitimer la vie de cet enfant.
Oui. Mmh.
Est-ce que, Yulia, tu souhaites ajouter quelque chose à cette interview ? Je pense que moi, j'ai abordé les sujets qui me paraissaient, en tout cas qui, à mon sens, étaient les plus importants à aborder. Peut-être que j'en ai oublié.
Non, je pense que tu as abordé l'ensemble des sujets qu'on pouvait aborder. Je dirais juste que le message que j'ai vraiment envie de passer, c'est soyons bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Et si vous connaissez quelqu'un qui est touché par le deuil périnatal, voilà, prenez le temps d'être là pour cette personne, à votre manière. Un coup de fil, un SMS, un message, un thé, un ciné, peu importe. Mais soyez là, en fait, parce que ce sont des gens qui sont des parents qui ont besoin d'être entourés, qui ont besoin de ne pas rester seuls. Malheureusement, l'enfant, on le voit pas, on ne l'a pas vu. Mais je peux vous dire que la peine et la douleur est vraiment réelle. Et c'est pour ça que cette journée est si importante. C'est pour accompagner ceux qui restent en vie, parce que au final, c'est pour les vivants que c'est le plus difficile.
Oui, complètement. Tu le disais tout à l'heure, Yulia, je pense que cette histoire, votre histoire, a aussi du positif. Notamment, en tout cas, pour le coup, je vais tourner ça perso, mais le fait de t'avoir retrouvé, c'était pour moi une... Déjà, c'était pas forcément quelque chose d'envisageable, parce qu'on se perd tous de vue quand on s'est rencontrés enfant. Donc évidemment, je vais préciser le fond de ma pensée. Donc Yulia, on s'est rencontrés, on était au conservatoire ensemble, il y a... je pense qu'on avait 8 ans, quelque chose comme ça.
Il y a longtemps.
Il y a très très longtemps, voilà, sur Bordeaux. Toi, tu es arrivée, si tu veux parler un petit peu de ton histoire, tu es arrivée de Biélorussie,
oui,
si je ne me trompe pas.
Oui.
Tu as une histoire familiale qui est relativement difficile, puisqu'à l'époque, la Biélorussie était ce qu'elle était, et elle est d'ailleurs plus ou moins toujours, hein, soyons clairs. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ?
Oui, bien sûr. Donc moi, je suis arrivée en France à l'âge de presque 8 ans. Et c'est qu'on s'est connu au conservatoire. Moi, je faisais du violon. Mes parents étant musiciens, j'ai pas trop eu le choix. Hein.
C'est souvent le cas.
Voilà. Et puis, donc voilà, je suis venue en France, tout simplement parce que la Biélorussie, que maintenant tout le monde connaît, petit état original et marginal, était voilà, une dictature. Donc à l'époque, c'était encore l'URSS. Je suis partie juste avant, tout simplement pour des questions d'antisémitisme.
Mm-mm. Ouais, complètement. C'est ce que tu abordes dans ton livre. C'est un état dans lequel, ouais, à ce moment-là, en tout cas, et je pense que ça l'est encore plus ou moins le cas, il y avait, hélas, beaucoup d'antisémitisme et vous avez dû vous réfugier dans un pays qui fut d'abord l'Autriche, puisque vous étiez apatride, puis la France, quand vous avez eu des papiers.
Oui, tout à fait. On a eu la chance que la France voilà, nous offre... Nous offre droit, on a le droit à une nouvelle vie. Et lorsque mon père a trouvé du travail en France, du coup, on a pu venir le rejoindre. Et ça va faire bientôt plus de 30 ans que nous sommes en France. Et heureux d'y être.
Et heureux d'y être, oui, je me doute. Je me doute. En tout cas, Yulia, c'était un vrai plaisir de te retrouver aujourd'hui et surtout d'aborder avec toi un thème qui est vraiment difficile, mais qui est, à mon sens, impératif d'aborder. Je te remercie beaucoup de t'être livrée, je sais que c'est pas facile, j'espère en tout cas avoir balayé, on va dire, les grands aspects de la journée du deuil périnatal, le pourquoi et comment accompagner les parents qui se retrouvent dans cette situation. Je te souhaite une très bonne journée.
Merci à toi, merci pour ce joli trait d'union plein de couleurs que tu as fait entre ton podcast et du coup le deuil périnatal et je te remercie pour ton écoute et toute la bienveillance que tu dégages. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Yulia. À très bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura sensibilisé à cette forme de deuil et j'espère qu'il vous aura aidé si vous y êtes confronté ou si vous rencontrez des personnes qui y sont confrontées. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcasts afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir, plus nous gagnerons en visibilité et plus nous aiderons d'autres familles à se reconstruire. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Yulia, ainsi que les références de son livre À Vif. Je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode classique du podcast Les Enfants vont bien.